Bonjour, merci à tous d'être là de si bon matin. C'est chouette, vous êtes plein, c'est cool. Vous êtes... vous êtes... il y a des gens qui sont cachés. Bon. Puisque le matin est propice évidemment aux neurones et aux réflexions, on va pouvoir réfléchir un petit peu tous ensemble et on va parler d'uchronie et d'anticipation. La thématique de cette table ronde, c'est voir si l'uchronie et l'anticipation sont les deux faces d'une même pièce. D'accord ? Donc on va essayer de, avec nos intervenants, définir l'uchronie, définir l'anticipation, voir ce qui peut être rapproché ou ce qui au contraire est complètement irréconciliable dans les deux thématiques. Et on fera appel à vous, puisque vous êtes plein et nous sommes que quatre. Alors, vous avez plus de... Ouais, normalement, vous avez plus de neurones que nous, donc du coup, on devrait pouvoir s'en sortir. Ouais, Hugo Bellagamba n'est pas tout seul. Il n'est jamais tout seul. Tu vois ce que... Enfin, bref. complètement à votre droite, Karine Gobled, blogueuse, membre du prix Planète SF et du prix ActuSF de l'Uchronie. Elle a à son actif deux guides, le guide de l'Uchronie, autant vous dire qu'elle est bien placée en Uchronie, et le guide de la science-fiction et de la fantasy qui vient de sortir aux éditions ActuSF. Au milieu, Hugo Bellagamba, ancien directeur artistique des Utopiales, c'est un peu sa maison ici, auteur de nombreux livres comme L'origine des victoires, Tancred, La huitième colline de Rome, La cité du soleil et Petit répertoire des légendes rationnelles. Hugo, typiquement sur l'Uchronie, il va pouvoir aussi pas mal nous dire des choses et aussi sur l'anticipation. C'est l'homme du milieu, pour le coup. Hein. C'est l'homme qui fait les deux. Et puis, Laurent Genefort, auteur de science-fiction, évidemment. On se souvient d'Omal, on se souvient des opéras de l'espace. Et puis, il y a la trilogie Spire, en ce moment, qui est en train d'être publiée. Et il vient de commettre un truc qui s'appelle Crime Alien et Châtiment, qui n'a rien à voir avec notre thématique, si c'est de l'anticipation. Il pourra peut-être nous en parler. Alors, comme tout bon modérateur, j'ai fait des heures de recherche. Hein. Moi, j'ai été sur Wikipédia. Et pour l'anticipation, on a comme définition une œuvre d'anticipation décrit le monde tel qu'il pourrait être dans un futur proche, quelques années ou une dizaine d'années, ou plus lointain. Les auteurs puisent généralement dans l'actualité de leur époque, dont ils extrapolent les possibles évolutions futures afin de tenter de donner un aperçu réaliste du futur. Tout le monde a suivi ? Je répéterai pas. Tant pis. Non, l'anticipation est une dissonance passagère aussi en musique. Je trouvais ça assez assez mignon. Une deuxième définition. J'aime bien l'idée d'une dissonance passagère. Je trouve que c'est assez évocateur. Et l'uchronie dans la fiction, c'est un genre qui repose sur le principe de la réécriture de l'histoire à partir de la modification d'un événement du passé. C'est presque plus simple que l'anticipation. Hugo et Karine, est-ce que vous pouvez, on va commencer, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de l'uchronie ? Karine.
Ouais, tu viens de la donner. c'est assez perturbant, mais c'est pas grave. Tu viens de la donner. Effectivement, l'uchronie, ça consiste à réécrire l'histoire avec un point de divergence. Donc on peut réécrire la grande histoire, comme on peut réécrire une histoire personnelle, la petite histoire, sa propre histoire de vie. On peut avoir une uchronie qui se situe loin dans le passé, c'est-à-dire comment ça se serait passé si Alexandre le Grand n'était pas mort empoisonné. On peut avoir une uchronie qui peut se situer très très loin dans le futur, à partir d'un point de divergence très très loin dans le passé. Je peux prendre par exemple Hugo Bellagamba, qui a fait du space opéra uchronique, par exemple. Ou Romain Lucaso, qui fait du space opéra aussi uchronique, mais qui prend Latium, voilà, qui prend très très loin dans le futur, à partir d'un point de divergence dans le passé. C'est ça l'uchronie. C'est juste du « et si », qu'est-ce qui se serait passé si on change un petit événement, qu'est-ce que ça peut changer. Donc ça peut changer beaucoup de choses, comme ça peut changer de toutes petites, petites, petites choses.
Très bien. Hugo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter et quel est le sel un petit peu de l'uchronie pour un écrivain ?
Alors, pour la définition, tout à fait d'accord avec Karine, évidemment, hein, parce qu'elle écrit un merveilleux guide sur l'uchronie avec Bertrand Campéis, qui est toujours disponible, il me semble, en plus. Il est épuisé, mais il a été réédité, non, c'est ça ?
Non, il va être réédité.
Voilà.
Excusez-moi, il est aux éditions ActuSF, ce guide de l'uchronie, et il en reste une dizaine d'exemplaires sur le stand ActuSF et il sera bientôt réimprimé.
Voilà, donc un guide qui a très très bien marché. Je suis ravi d'ailleurs.
Et Bertrand sera là aussi pour des dédicaces, demain.
D'accord. Donc voilà, sur l'uchronie, qu'est-ce que je peux rajouter ? Je vais rajouter mon petit côté historien, entre guillemets. D'où vient l'uchronie ? L'acte de naissance de l'uchronie, c'est un texte qui s'appelle l'uchronie. Voilà, comme l'acte de naissance de l'utopie, c'est le texte de Thomas More, ou Topos. L'utopie, qui date de 1516, eh bien, l'Uchronie, elle est un peu plus jeune que l'utopie. La première véritable Uchronie, au sens terminologique du terme, hein, tout simplement, le mot Uchronie, est inventé par Charles Renouvier, un philosophe républicain, qui écrit l'Uchronie. Alors, il écrit en 1857, mais elle est publiée en 1876. Et c'est une utopie dans l'histoire, c'est comme ça qu'il l'a définie. L'Uchronie, utopie dans l'histoire. Et il raconte une uchronie sur l'histoire de Rome, en fait, sur l'Empire romain, et sur l'idée que l'Empire, au final, se serait finalement libéré de sa croissance impériale et serait redevenu une république. C'était un peu le rêve de Marc Aurèle, en fait. Je ne sais pas si, dans la salle, certains d'entre vous ont vu le film Gladiator. Vous avez vu Gladiator ? Hein, c'est le général qui devient un gladiateur, puis qui devient... etc. Bon, ben, Gladiator... Vous rappelez, l'empereur, c'est Marc Aurèle. Et il est face à Commode, son fils, à Riviste, etc., qui finit par le tuer. Enfin, ça, bon, vous avez vu le film. Eh bien, cette uchronie-là, c'est exactement celle de Renouvier. Renouvier imagine qu'après Marc Aurèle, remet les rênes de l'Empire à un général qui s'appelle Avidius Cassius, avec pour mission à ce général de restaurer les valeurs de la République et de retrouver la République. Et c'est ce qui se passe. Et il décrit un monde complètement parallèle, dans lequel, par exemple, l'Empire est redevenu une République, dans lequel le christianisme ne s'est pas développé, etc., etc. Et c'est un très long texte, un peu chiant. Je pense que vous n'allez pas vous éclater en le lisant. Mais c'est un texte qui fait référence, voilà. Et c'est 1857, année d'écriture, 1876, année de publication. Il y a eu quelques uchronies avant, comme celle de Geoffroy, Louis Geoffroy sur Napoléon, mais là, on a vraiment l'acte de naissance terminologique du mot, uchronie ou chronos. Donc, c'est pas un lieu qui n'existe pas dans l'espace, c'est un moment ou un temps qui n'existe pas, un temps purement imaginaire, ou chronos, voilà. Avec l'ambiguïté toujours hein, sur le fait que ça peut être un temps meilleur ou un temps pire que celui que nous connaissons. Alors, pour un auteur, bah, c'est évident, l'uchronie, ça ouvre des champs incroyable, c'est comme les univers parallèles finalement. C'est-à-dire que si j'ai envie d'écrire ou de décrire un monde très différent d'une autre, soit je pars sur une planète lointaine, soit je fais de l'anticipation, on va y revenir, soit je reviens en arrière dans le temps, je trouve un point de divergence et j'écris un monde où par exemple eh bien, la civilisation de l'Égypte pharaonique a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et nous continuons à croire à des dieux comme Anubis, Thoth, Horus, enfin... etc., etc. Voilà, donc l'Uchronie ouvre des pistes spéculatives pour tous les auteurs, instantanément comme ça, à partir de ce qu'on appelle traditionnellement un point de divergence, un point de divergence dans le temps. Voilà. Bien sûr, c'est de l'imaginaire, évidemment. Hein. N'allez jamais confondre l'Uchronie avec une tentative de révisionnisme de quelque nature que ce soit.
C'est dit. On va passer la parole à Laurent. Peut-être une définition pour toi de l'anticipation.
Pardon. L'anticipation, je dirais que c'est un... C'est un type de récit qui se déroule dans un futur plus ou moins proche, avec l'idée que le fil chronologique avec le monde contemporain n'a pas été rompu. C'est ça l'idée, en fait. C'est parce que sinon, dire simplement que ça se passe dans le futur, ça peut inclure, je sais pas, le post-apocalyptique, etc. Mais l'anticipation, c'est vraiment cette idée que c'est dans la continuité du monde contemporain. Voilà. En fait, c'est la plus courte que j'ai pu trouver.
Donc, on anticipation, science-fiction qui parle toujours du réel, on est d'accord ?
Oui, oui. Et forcément.
Forcément du réel.
Oui. Hein,
aujourd'hui, demain ou dans des dizaines d'années, voire des siècles.
Voilà, exactement.
Okay. Sur l'Uchronie, est-ce qu'on a le même rapport au présent ? Si on dit souvent que la science-fiction parle évidemment du présent et de notre société, est-ce que c'est aussi le cas de l'Uchronie sous les dehors de jeux avec l'histoire ?
Ça dépend déjà des auteurs qui se lancent. Mais de toute façon, de manière générale, la science-fiction, l'Uchronie, l'anticipation, ça parle toujours du monde de maintenant, de l'homme maintenant, des valeurs, etc. etc. Ça parle toujours du présent de manière déguisée. C'est plus ou moins marqué chez certains auteurs. On a des auteurs qui sont très nostalgiques de ce qui n'est pas advenu, donc des uchronies politiques qui sont plutôt engagées autour de Napoléon, mais pas que. Et parfois, ça déborde un peu, effectivement, dans le sens où on est plus sur du pamphlet ou de la politique déguisée là-dessus.
Hugo, quand tu écris une uchronie, pareil sur le rapport au temps présent ?
Ah oui, absolument, hein, absolument. On part du présent, c'est-à-dire que ce qui donne envie d'écrire une uchronie, c'est quelque chose qui se passe dans le présent. Vous savez que les auteurs de science-fiction, en général, quand je dis science-fiction au sens large, interrogent la réalité du monde. Ils interrogent même nos représentations, la manière dont on conçoit le monde, dont on voit le monde. Ils essayent de traduire ça en fiction, pas forcément pour faire passer un message, mais ça les imprègne d'une certaine manière. Alors, les auteurs d'uchronie, c'est évident que aussi. Si j'écris une uchronie où j'imagine que, par exemple, pour citer Philippe K. Dick, hein, le maître du Haut-Château, où la Seconde Guerre mondiale a eu une issue complètement différente, où les nazis ont gagné la guerre, et si je décris un monde qui finalement, malgré cette absurdité évidente, fonctionne, il y a une façon étrange d'interroger les événements que nous avons au quotidien et dont nous ne voyons pas le côté pervers, le côté altéré, le côté malsain, finalement, même dans notre monde où les alliés ont gagné la guerre. Donc chaque auteur d'uchronie a en tête le présent. Quand j'ai travaillé sur Tancred, j'étais dans un monde qui n'arrêtait pas de parler du choc des civilisations. J'ai commencé à travailler sur Tancred dans les années 90, ça fait très longtemps. Il y a eu le 11 septembre 2001. Et après, il y a eu des tas de livres qui ont été publiés sur le choc des civilisations, l'incompatibilité entre l'Orient et l'Occident, tout ça. Et Tancred est porteur justement d'un message qui est en réaction à cette bilatéralisation qu'on nous proposait. Donc je pense qu'il est clair que les auteurs d'uchronie écrivent toujours par rapport au présent. Et pour dire encore un mot de Renouvier, dont on arrêtera de parler après, lui, il était républicain. Il écrit en 1857, c'est publié en 1876. Il écrit donc sous le Second Empire. Et c'est un républicain, donc il écrit sous Louis-Napoléon III. Et il veut montrer que la République a tout à offrir et qu'elle ne doit pas succomber à un Second Empire. Qu'elle ne doit pas rester, la France ne doit pas rester dans l'Empire. Donc il écrit, et c'est un manifeste républicain, hein, quand il parle de la République romaine, en fait, il parle de la République qu'il voudrait pour la France au moment présent. Donc il y a une dimension politique et présente.
Laurent ?
Moi, je vois beaucoup de points communs, en fait, entre l'anticipation et l'uchronie. Je pense que déjà, ça pose dans les deux cas, ça pose le problème de l'histoire a-t-elle un sens ? Déjà, en fait. Et je pense que dans le passé comme dans le futur... Enfin, comme pour le futur, on est perdu de sens. On cherche du sens tout le temps, en fait. Et c'est une façon de cartographier cette histoire, en fait. Le fait de faire de l'uchronie ou de l'anticipation. L'anticipation, c'est peut-être plus ouvert parce que, comme le futur se construit en permanence, ça laisse des portes et ça laisse l'irruption du chaos, j'allais dire, dedans. Alors que dans l'uchronie, il y a peut-être plus une combinatoire. Ça se joue peut-être plus dans la combinatoire, en fait. Mais il y a cette idée quand même de rechercher du sens tout le temps. Et peut-être aussi l'uchronie, dans les différences, pour le coup. Je pense que quand on touche au passé, on touche à presque tout ce qui nous fait, en fait. Presque tout ce que nous sommes. On est la somme de tout ce qui nous a précédé et finalement de toucher comme ça à ce qui nous constitue, à presque tout ce qui nous constitue. C'est une façon aussi de remettre en question nos fondamentaux, ce que fait la SF très bien d'une manière générale, en fait.
Karine, tu voulais réagir ?
Oui, c'est ce qui explique aussi que le procédé uchronique, qui est vieux, un petit peu vieux comme le monde, on en trouve quand même chez les philosophes ou les historiens de l'Antiquité, a été récupéré très facilement par les auteurs de SF dans les années 60-70 et qu'ils s'en sont servis énormément. Alors, parce qu'effectivement, ça ouvre des champs spéculatoires, alors que effectivement, les auteurs de SF écrivent de la science-fiction, écrivent de l'anticipation, écrivent un tas de choses, et ils se sont rendus compte du potentiel de l'outil pour réinterroger aussi leur identité et l'identité de la société.
Moi, j'ai une question par rapport au temps, parce que souvent, au niveau d'une uchronie, on n'est pas sur le point de divergence. Le point de divergence a eu lieu et on est quelques années, quelques mois ou quelques siècles après. Et évidemment, en anticipation, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est souvent, on peut être décalé d'un an, mais on va avoir tendance à être un petit peu plus loin. À quoi sert cette distance de temps pour les écrivains, soit entre le point de divergence, soit entre notre réalité et le récit ?
Tu veux dire de se positionner par rapport au point de divergence. Alors bon, en général, le jeu pour l'auteur d'uchronie, enfin tu le sais mieux que moi vu que tu as écrit le guide, mais c'est de jouer avec le lecteur, c'est-à-dire que de propulser le lecteur dans un monde qu'il ne reconnaît pas, qui a l'air complètement absurde au début, où on ne se reconnaît pas, hein, c'est un espèce de choc de non-identification du monde réel. Alors que pourtant, tous les éléments de la réalité, c'est Philippe Kadic, hein, ils sont les voitures, la technologie, tout ça. Et de jouer avec le lecteur pour qu'il retrouve l'origine, finalement, la cause. Alors on cache souvent le point de divergence. Et généralement, oui, c'est plusieurs dizaines d'années après, ou presque parfois deux, trois siècles après, on cache le point de divergence à un moment donné jusqu'à ce que le lecteur le trouve, mais ça peut pas faire tout le récit, parce qu'une fois que le lecteur a trouvé le point de divergence, donc il y a deux effets, il y a un effet retard, il y a le premier effet qui est de trouver quel est le point de divergence, à quel moment ça a divergé, et parfois dans certains récits il y en a plusieurs, et puis ensuite de voir si on croit au monde qu'on nous décrit, en fonction de ce qu'on sait, nous, de l'histoire et de la réalité, et du coup de voir si l'auteur arrive à nous amener à un sentiment que oui, tel monde aurait pu exister, ce qui est encore le cas du maître du Haut-Château, qui est tout à fait l'exemple tutélaire vraiment par excellence. Et on se dit, bah, finalement, ce monde qui avait l'air absurde, finalement, il est cohérent. Et c'est là où on rejoint l'anticipation. Je pense qu'il y a une exigence de cohérence dans le récit, de pas tromper le lecteur. C'est-à-dire que dans l'anticipation, on doit être cohérent, tous les éléments doivent être en interaction, et dans l'Uchronie aussi, c'est-à-dire que tu peux pas raconter n'importe quoi. Alors il y a des Uchronies beaucoup plus fantasmagoriques, etc., qui peuvent tout à fait être acceptables, mais si on est dans une Uchronie vraiment de nature sociale ou politique, on va essayer de rester dans la crédibilité, donc dans la cohérence de la société qui découle du point de divergence. Donc c'est pour ça qu'on se place souvent plusieurs décennies ou des fois un siècle ou deux après pour jouer avec le lecteur, parce que sinon bon voilà, c'est plus facile.
Oui, d'autant plus qu'un point de divergence généralement amène d'autres points de divergence derrière, et donc un petit changement dans l'histoire peut amener un changement culturel, peut amener un changement dans les arts et ainsi de suite, et ce qui fait que le jeu avec le lecteur il est encore plus passionnant. Alors moi j'écris pas de fiction, j'ai écrit un guide sur l'Uchronie, mais j'en lis énormément, et c'est effectivement très drôle de se dire tiens ça a changé, du coup ça a changé, et effectivement ça fonctionne. Voilà. Donc il y a ce côté un petit peu richesse et puis ce côté ludique aussi, parce que c'est assez marrant d'aller chercher ce qui a changé tout au long du récit. Moi, je pense aussi à, par exemple, à Roland C. Wagner et son rêve de gloire. Il y a de multiples points de divergence. Moi, je les ai pas tous trouvés. Je pense que je les trouverai jamais tous. Mais c'est très drôle de les voir sortir, quoi. Il y en a dans l'histoire du rock'n'roll, il y en a dans l'histoire de l'Algérie, etc., etc., quoi.
Oui, c'est vrai que la multiplicité des points de divergence peut aussi toucher des publics très différents. Vous avez des gens qui vont être intéressés par l'histoire du rock'n'roll, d'autres par l'histoire politique de l'Algérie. Donc ça, effectivement, chez Roland C. Wagner, c'est tout à fait... Et juste pour trouver encore un lien avec l'anticipation, cette idée de non-rupture avec le présent, et je pense qu'elle est valable pour l'Uchronie. C'est-à-dire qu'en fait, l'Uchronie, ça serait de l'anticipation antérieure. Pas tellement à l'envers, parce qu'elle va dans le même sens. C'est-à-dire qu'on part d'un point de divergence... Et on doit réanticiper tous les événements qui vont être modifiés par ce point de divergence. Donc en fait, on est presque dans la même mécanique, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir de rupture entre le point de divergence et le récit qu'on va raconter. Il en découle finalement.
Oui, et je pense aussi dans les deux cas, il y a le fait de trouver des divergences, le fait de présenter des divergences, ça va permettre aussi au lecteur de mesurer qu'est-ce qui est une constante et qu'est-ce qui est une variable. Le point de divergence, c'est la variable, c'est ce qu'on a fait varier, et ce qui va ressembler à notre monde va être interprété par le lecteur comme une constante. Donc c'est là où d'ailleurs intervient l'idéologie, pour le coup, c'est-à-dire c'est le point de vue de l'auteur qui, je trouve que dans le point de vue de l'auteur, il transparaît dans la constante. C'est-à-dire qu'est-ce que l'auteur veut faire passer, qu'est-ce qu'il dit de l'être humain d'une manière générale ou de notre civilisation d'une manière générale. Et ce qui ne change pas dans le récit uchronique, c'est ce que l'auteur veut faire passer comme constante, en fait. Enfin, je pense.
Juste pour ajouter, à 100% d'accord avec Laurent, l'uchronie est profondément, comme tout récit de science-fiction, subjectif. Donc c'est une vision, alors idéologique, je ne sais pas si c'est systématisé, mais en tout cas, c'est une vision subjective de l'histoire. Et de toute façon, ne vous faites aucune illusion. S'il y en a parmi vous qui aiment l'histoire et qui lisent les historiens, l'histoire objective, hein, ça n'existe pas, les cocos. Hein. C'est que des interprétations. C'est que des gens qui prennent des faits vérifiés historiquement, scientifiquement, dans des archives, etc., et qui vont en interpréter l'impact. C'est pour ça que, par exemple, on peut parler de la féodalité de 14 000 manières différentes, selon l'époque aussi à laquelle on appartient. Mais ça, c'est un autre sujet. Et je pense que l'Uchronie, comme l'Antipassion, révèle aussi des... Vous avez vu la conférence de Roland, la conférence introductive, avec l'histoire de cône de lumière, là, vous l'avez vu ou pas, cette conférence? Voilà. Ben, c'est ça, quoi, l'Uchronie ou l'Antipassion, on est dans un cône d'événements et on peut pas en sortir, donc on va faire des interprétations sur ces événements et essayer de trouver. Alors, effectivement, on dit beaucoup de nous-mêmes. On dit beaucoup de nous-mêmes quand on fait un récit où on montre qu'un empire aurait pu durer indéfiniment et rendre les gens heureux. Ben, indirectement, il y a une dimension qu'on croit à la concentration du pouvoir, etc. Qu'on fait une uchronie anarchiste où on montre que, eh bien, ce sont les machines qui vont tout organiser et que le pouvoir ne sera plus dévolu aux êtres humains et qu'ils vont être dans la liberté hédoniste la plus parfaite. C'est aussi un point de vue. Donc, il y a beaucoup d'idéologie, hein, ça c'est clair, hein, comme dans toute la science-fiction.
Karine voulait réagir et puis Laurent après.
J'ai oublié ce que je voulais dire. Pardon, je voulais juste dire que j'étais tout à fait aussi d'accord, voilà, 100% d'accord.
Tous d'accord, formidable. Laurent, tu voulais ajouter quelque chose?
Et moi aussi, je suis d'accord avec moi, donc il n'y a pas de problème.
Et en même temps, Laurent, toi, tu ne fais pas d'Uchronie?
Alors, c'est marrant parce que j'ai proposé il n'y a pas longtemps à un éditeur une nouvelle qui s'appelait Jennifer a disparu, qui a été interprétée par mon éditeur comme de l'anticipation, il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes même. Et en fait, c'est de l'Uchronie, en fait, techniquement. Puisque dans ce monde-là, les aliens ont débarqué, mais je dis pas quand. Je dis juste que c'est contemporain, à notre monde, mais j'indique pas de date. Dans ce récit, je suis un auteur de science-fiction, mais qui a été mis au chômage par l'arrivée des aliens. Mais il y a déjà un certain temps, en fait. Et donc, du coup, je suis devenu un enquêteur pour aliens, un détective privé pour aliens. Mais donc, en fait, on est dans l'Uchronie, il n'y a aucun souci, en fait.
Alors, donc, c'est un livre qui s'appelle Crime, Alien et Châtiment, vous l'avez compris. Laurent Genefort est avec Laurent Well et Pierre Bordage, et ils jouent effectivement des détectives privés, des anciens auteurs qui se reconvertissent comme ils peuvent parce qu'ils gagnent plus de sous. Et donc, Laurent Genefort joue Laurent Genefort, Pierre Bordage joue Pierre Bordage. Et pareil pour Laurent Well. Est-ce que ça pourrait rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle l'Uchronie personnelle, dans ces cas-là?
Complètement, c'est ça. En fait, l'Uchronie personnelle, c'est vraiment à mi-chemin quasiment de... Enfin, en fait, c'est très très fictif, en fait. C'est ça qui est marrant, parce qu'on se réinvente comme personnage. Donc, et c'est d'autant... Quand soi-même on se réinvente comme personnage, on dit au lecteur, vous voyez, vous êtes vraiment dans une fiction, il n'y a aucun doute. Donc c'est comme ce que tu disais, finalement, l'Uchronie, c'est de l'histoire honnête. On dit clairement qu'on est dans le décalage. Donc on dit clairement qu'il n'y a pas d'histoire objective. C'est une façon de le dire, en fait. Et c'est encore plus frappant un autre type d'uchronie qui sont les uchronies littéraires, où on imagine, on prend comme point, on peut considérer que c'est presque un point de divergence de prendre de se situer dans le passé, par exemple, et de prendre Sherlock Holmes comme un personnage réel, ou un autre. C'est une façon aussi d'introduire des univers fictifs dans l'histoire. C'est aussi une manière de dire que cette histoire-là, c'est forcément une reconstruction. C'est forcément une construction intellectuelle. Et voilà, on est dans le changement de décor à vue, d'une certaine manière.
Y a-t-il plus de contraintes à faire une uchronie qu'une anticipation?
L'uchronie, ça m'a toujours fait peur. J'en ai très peu fait. Hein. J'ai fait juste deux nouvelles et puis je travaille un futur roman dessus. Mais moi, ça m'a toujours fait très peur parce que j'ai un rapport à l'histoire très très bizarre. Enfin, je suis très intimidé moi par l'histoire. C'est une matière que je domine, que j'ai pas l'impression de dominer du tout. Je suis toujours très impressionné par les auteurs qui s'y attaquent, parce que pour moi, c'est une montagne, quelque part.
Et en même temps, et on va parler d'Uchronie juste après, quand tu mets en place un monde comme Omal, qui est technologiquement cohérent, entre guillemets, tu as des contraintes qui sont fortes.
Les contraintes sont fortes, mais c'est moi qui me les donne. Je pars de zéro, réellement, donc je refabrique tout. Et donc, du coup, tout ce que j'apporte, le lecteur, il pense que le monde m'est donné d'une certaine manière, mais c'est pas vrai. Je le construis en permanence, donc j'ai une liberté qui est quand même gigantesque. Dans l'histoire, il y a cet effort de cohérence interne, et de sources, tout simplement, les sources ne sont pas les miennes dans l'histoire. Donc, et ce que j'apporte, cette divergence, c'est ça qui est mon apport. Mais tout le reste doit être sourcé. Je pense que la différence, elle est là. Donc, il y a le même travail de cohérence interne et de volonté d'immerger le lecteur dans une histoire. Mais l'histoire, elle est. Moi, je trouve ça très. Je suis très intimidé parce qu'en face de nous, on a des lecteurs qui sont avertis et qui connaissent l'histoire aussi, alors plus ou moins. Hein, mais je sais que les erreurs, ça pardonne pas. Je trouve.
Et en même temps, ton rapport aux sciences quand tu mets en place Le Monde de Mal ou d'autres. Je me souviens de livres où tu me disais avoir discuté avec des scientifiques, donc il y a quand même une contrainte scientifique.
Ah oui, il y a une contrainte de forte, physique hein. Forte, oui.
Ouais.
Mais ça rentre dans le processus créatif. En fait, je le mets où je le veux. Voilà, je mets cette cohérence où je veux. Dans l'Uchronie, j'ai l'impression que la cohérence, il faut qu'elle arrive de partout, d'une certaine manière. Mais bon, c'est ma vision personnelle de l'Uchronie, pour le coup. Et aussi tel que je l'ai lu chez les auteurs classiques comme Pavane, etc. Enfin, les textes classiques comme Pavane, je veux dire.
Karine ?
Moi, de mon point de vue, effectivement, qu'il y ait des contraintes d'ordre scientifique sur de l'anticipation ou du space opéra, ou des contraintes d'ordre science historique sur de l'Uchronie, pour moi, de mon point de vue, c'est la même chose, c'est le même type de contrainte. C'est ça qui est de l'extérieur. J'ai l'impression que quand on veut faire quelque chose, un univers cohérent d'un point de vue scientifique ou un univers cohérent d'un point de vue historique, c'est exactement la même chose. Et c'est pas plus impressionnant. Moi, je suis très impressionnée par les auteurs de science-fiction qui sont capables de me faire un monde cohérent à partir de sciences dont je ne comprends pratiquement rien. Voilà. Et du coup, je vois pas vraiment la différence. Et ce qui me fait le lien avec la précédente question aussi, c'est qu'il y a des auteurs d'anticipation à court terme qui ont été lus a posteriori comme des uchronies. Comme par exemple ici Svatiska Knight de Catherine Burdekin, qui est sortie, qui raconte en fait de l'anticipation autour du Troisième Reich, qui est vue comme une uchronie parce qu'elle est sortie après. Donc les processus d'écriture sont peut-être aussi un peu similaires là-dessus.
Sur ce livre-là, ce qu'il faut
dire. Dans la spéculation, oui, on est. Voilà. Clairement.
Sur ce livre-là, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il a été écrit avant.
Avant, tout à fait. Avant la montée de la Seconde Guerre mondiale, oui. Et donc on est dans l'anticipation pure, et c'est lu comme une uchronie parce que le lecteur est plus vieux et que la Seconde Guerre mondiale est passée.
Il y avait une nouvelle de Robert Heinlein aussi qui s'appelle Solution non satisfaisante, qui est écrit en 42, qui prévoit toute la fin de la guerre. Donc c'est Berlin qui est détruit et pas Hiroshima, qui pourrait être, a posteriori être lu comme une uchronie, sauf que ça a été écrit avant. Hugo ?
Oui, hein, tout ça est absolument passionnant. Alors en fait, moi j'ai la peur inverse de la tienne, tu vois. C'est, moi je suis totalement décomplexé par rapport à l'histoire, en fait. Mais pas parce que... Bon, moi je suis historien, je suis pas historien, hein, je suis historien du droit de formation, donc j'étudie que les systèmes juridiques et pas tout, un petit peu l'histoire des mentalités, des représentations, mais pas toute l'histoire en général. Peut-être que si j'étais historien au sens pur, j'écrirais pas des uchronies, parce que bon, encore que maintenant les historiens se laissent aller à utiliser l'uchronie comme un outil spéculatif. Mais moi, j'ai pas du tout cette angoisse-là, dans la mesure où l'uchronie s'assume de toute façon comme fiction dès le départ, dans le nom même, ou chronos. Alors qu'anticipation, c'est pas si évident. On pourrait dire que l'anticipation est peut-être parfois pas très loin de la prospective, alors que de façon très claire, l'uchronie, c'est pas de l'histoire, c'est clair et net. Donc il y a une sorte de... Il n'y a pas cette angoisse, si tu veux. Par contre, c'est vrai qu'il y a énormément de recherches, on fait énormément de recherches, quel que soit le type d'uchronie qu'on va écrire, il faut connaître la période, pas faire de contresens, sinon ça revient à réinventer l'histoire. Ce qui est parfois arrivé à certains auteurs d'uchronie, de redécouvrir quelque chose qui est en fait la réalité. Et du coup, voilà, il y a beaucoup d'imprégnation. Moi, la manière dont je travaille, c'est que je fais de très longues recherches, je lis énormément pendant longtemps, Tancred, ça m'a pris 10 ans. Et au moment où vraiment on se dit, bon ben là ça y est, on maîtrise à peu près l'ensemble du corpus, on peut se lancer en étant certain du... pas de la cohérence, mais de la justesse du ton. Voilà. Parce que, il faut rester juste. Il faut que le ton uchronique soit juste aussi. Sinon, les gens vont pas suivre. Ils vont se dire tout de suite, les lecteurs vont se dire, bon, c'est des élucubrations, ça part dans n'importe quel, voilà, ça va pas du tout. Mais après, c'est encore très semblable, hein, je trouve. Et alors, je comprends pas pourquoi vous opposez, sciences sociales et sciences exactes. Je veux dire, dans l'anticipation, Il y a aussi énormément de sciences sociales, de sciences humaines, c'est-à-dire on va anticiper l'évolution d'une société. C'est quand même extrêmement audacieux.
Hein. Je ne posais pas d'ailleurs.
Voilà, oui, parce que on parlait de science et par rapport au voilà. Et dans l'Uchronie aussi, hein. Dans l'Uchronie, quand tu fais une Uchronie, donc forcément tu reviens en arrière sur un point de divergence dans le temps. Tout de suite se pose la question de l'évolution de la technologie. Et d'ailleurs, la plupart des Uchronies postulent soit une accélération technologique, soit au contraire un retard. Alors il y a aussi on peut décliner ça en steampunk aussi parfois, où on reste longtemps sur les machines à vapeur, beaucoup plus longtemps, on est dans un monde qui est le monde d'aujourd'hui en 2017, mais il y a des dirigeables et des machines à vapeur partout. On peut imaginer aussi qu'il y a un impact sur la technologie et le rapport à la technologie. Donc du coup, non, je pense que, comme dans la science-fiction en général, c'est une littérature qui peut véhiculer beaucoup d'émotions, par les personnages, par l'imprégnation, par l'identification, mais c'est très cérébral, c'est-à-dire qu'il faut vraiment d'abord et avant tout construire, être cohérent, mesurer ses sources, etc. Enfin, ça prend vraiment du temps. Moi, je pense que on ne fait pas d'Uchronie à la légère, ou alors on fait les Uchronies délibérément légères.
Je pense que c'est ça.
On s'amuse, on joue, et les Uchronies personnelles sont pas forcément plus faciles, hein, des fois. Et tous les auteurs s'y sont essayés, hein, de faire des Uchronies personnelles ou de faire des Uchronies où ils ont plusieurs vies en parallèle, etc. Donc, mais encore une fois, on est quand même, je trouve, dans la c'est quelque chose d'assez semblable en fait, l'Uchronie et l'anticipation.
Laurent.
Surtout quand c'est des Uchronies qui impliquent des changements sociétaux forts, comme dans La Machine à Différence, par exemple, de Gibson et Sterling, où il imagine je sais plus si c'est la Pascaline ou, enfin, en tout cas, la machine de Babbage, le calculateur de Babbage, en fait, est lié en fait aux machines à vapeur, en fait, enfin,
on arrive à la faire fonctionner.
On arrive à la faire fonctionner, voilà. Ouais. Et donc, ça fait une sorte de révolution industrielle, puissance 10 par rapport à ce que c'est. Et ce qu'on mesure, en fait, c'est la différence entre ce que mesure le livre, c'est la différence entre les archaïsmes sociétaux du 19e siècle et puis une puissance industrielle gigantesque, qui devient gigantesque, en fait. Et c'est vraiment une lecture de notre monde qui est extraordinaire, parce que c'est ce qu'on vit, en fait.
C'est une lecture du cyberpunk, mais dans le passé.
Oui.
Mais le cyberpunk est une forme...
Une accélération technologique, ah ouais. Voilà, c'est une accélération technologique, et puis une puissance de feu, j'allais dire, de l'humanité sur la nature, sur l'industrie, qui est gigantesque, mais avec un décalage par rapport au comportement, en fait, humain, qui reste ceux d'une époque, ancré dans une époque.
À cette époque-là, ils ne sont pas prêts à prendre.
Voilà,
c'est un vrai choc. C'est plus que maintenant encore. Et c'est un vrai choc culturel et c'est un vrai choc sur le fait de comment j'appréhende cette technologie et comment j'en maîtrise les conséquences. C'est ça.
Et le cyberpunk, justement, qui revient beaucoup à la mode en ce moment. Enfin, c'était les années 80. Hein. Le cyberpunk, c'est 82, 84. Donc c'est loin de nous. Et aujourd'hui, on y revient beaucoup avec les notions de transhumanisme, etc. Et je trouve qu'il y a le cyberpunk réunit les deux apports de l'Uchronie et de l'anticipation. C'est-à-dire, c'était de l'anticipation à l'époque où Gibson, Sterling et tous les autres prenaient la plume, Walter John Williams et d'autres encore. Et c'est devenu, alors c'est pas stricto sensu de l'Uchronie parce que ça ne voulait pas être Uchronie, mais c'est un futur que nous n'avons pas eu finalement. Nous en avons un autre qui est différent, mais qui nous parle encore aujourd'hui. Hein. C'est pas un hasard du tout si Blade Runner, par exemple, ressort au cinéma. Je veux dire, Blade Runner qui a été le film, hein, je parle, hein, pas le texte qui est plus ancien, le texte de Dick, mais qui a été un des modèles pour William Gibson, il le dit, hein, par rapport à l'atmosphère, etc. Alors vous savez bien qu'on n'a pas cette société, on est en 2017, hein, Blade Runner c'était 2019, on n'a pas cette société où il fait noir dehors, où on a partout de la pluie, etc. On n'y est pas encore, on n'y est pas. Et pourtant, elle nous parle, elle nous dit, alors finalement, que faisons-nous dans elle interroge notre rapport à la technologie, comme si c'était une Uchronie. Je pourrais aujourd'hui écrire une Uchronie en disant, et si nous étions tous tombés dans le réseau, complètement, à la manière de Gibson, une Uchronie gibsonienne, en somme, eh ben, on tomberait très bien sur le retour actuel du cyberpunk. Donc,
mais je pense qu'en fait, ça rejoint les deux. Je trouve que Blade Runner, mais a même vu le rapport à la nature qui est inexistant, et on voit avec les dernières études sur l'impact environnemental de l'homme à l'échelle globale, qu'il est bien plus calamiteux qu'on ne pensait, avec 40% de la faune sauvage qui a disparu en 30 ans. Enfin, c'est hallucinant. 75% des insectes ont disparu en Allemagne. Enfin, l'étude ne concerne que l'Allemagne, mais elle est probablement à 80% en France, et puis où on utilise énormément de pesticides, et puis probablement des chiffres à peu près similaires dans les autres pays d'Europe. Donc, même à ce niveau-là, on y arrive, en fait. C'est-à-dire cet éloignement progressif, mais quand même à l'échelle d'une vie humaine, de la disparition de quasiment d'une biosphère, en fait. C'est intéressant. Parce que ce qu'on pensait être totalement dystopique, en fait, non, c'est de l'anticipation, finalement. Pour Blade Runner.
Oui, tout à fait. Ouais. Et pour l'Uchronie, pareil. C'est-à-dire que même si les Uchronies sont rejointes par le présent, et qu'aujourd'hui on est à des dates qui correspondaient à des uchronies qui voyaient ces dates-là et qui sont complètement, elles gardent leur pertinence parce qu'elles vous disent quelles étaient les inquiétudes et les rêves, les fantasmes d'une époque donnée à travers un auteur, et du coup ça permet de relativiser les nôtres. Et ça c'est très important.
Il y a aussi le rapport au réel de l'œuvre, en fait. C'est que la signification d'une œuvre, elle passe pas forcément par la divergence ou ce qui est manifeste. Elle peut aussi passer par le substrat ou une réinterprétation des postérieurs des éléments. Je pense par exemple à Philippe K. Dick et les objets ces objets du quotidien qui parlent, qui interagissent avec les héros. Dans l'esprit de Dick, qui n'était pas du tout tourné vers la technologie, il n'y avait pas du tout l'idée des objets connectés qu'on a maintenant, mais on relie avec la technologie de maintenant, et ça paraît complètement prophétique, en fait. Il y a beaucoup de bouquins qui nous parlent, Planète à gogo de Kornbluth et Paul, c'est la même chose. C'est un bouquin écrit en 1950, et dedans on a les spams, la publicité qui ajoute des adjuvants pour rendre accro, on a tout le monde contemporain, en fait. Voilà.
Mais est-ce que l'Uchronie, si on est d'accord que l'anticipation interroge notre présent, et que l'Uchronie aussi, on voit bien qu'il y a quand même, et Karine, tu pourras peut-être nous en dire un mot, de grandes périodes interrogées par l'Uchronie, et des périodes qui nous fascinent, hein, que ce soit la Seconde Guerre mondiale ou l'Empire napoléonien ou des choses comme ça. Est-ce que c'est une manière aussi d'interroger ces périodes-là et de se les réapproprier ?
Oui, alors il y a aussi le fait où l'histoire, c'est quand même une science qui est en mouvement. On a l'impression qu'elle est figée et que l'histoire est écrite. Et en fait, non, on découvre des nouvelles sources, il y a des fouilles archéologiques qui remettent en cause, par exemple, ce qu'on sait sur les Gaulois. Ça a beaucoup changé. Et puis l'histoire, elle est toujours écrite, où nos sources sont toujours partielles. C'est-à-dire qu'on a une histoire des Gaulois, des peuples gaulois, enfin des peuples de la Gaule, par le prisme de l'Empire romain. Donc on n'a pas forcément l'histoire du peuple de la Gaule par les peuples de la Gaule. Ce qui fait qu'on a des visions partielles. Donc effectivement, l'Uchronie, c'est aussi se poser des questions sur ce qui était, comment on a écrit l'histoire. Pourquoi on l'a écrite comme ça aussi ? Et puis, est-ce qu'elle ne pourrait pas être écrite autrement ? Et est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans ce qui est écrit autrement ? C'est aussi cette dimension-là qu'on a dans l'Uchronie. Et effectivement, certaines périodes fascinent, parce que certaines périodes restent un petit peu difficilement compréhensibles pour l'esprit humain. C'est-à-dire, par exemple, Hitler, on va dire, c'est un monstre. Non, Hitler est un être humain, voilà, un être humain qui a créé une chose qu'on ne peut pas concevoir. On ne s'imagine pas qu'un être humain soit capable de faire ce qu'a fait Hitler. Or, c'est bien un être humain qui a fait ce qu'il a fait. Il y a toute cette noirceur et tout ce côté où le pire en l'homme, comme le meilleur en l'homme, qui se refait aussi interroger par le biais de l'Uchronie.
Oui, absolument. Et en fait, l'histoire, c'est une sorte d'arborescence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire. Hein. Il n'y a pas une façon d'interpréter les faits qui est... Bon, c'est celle que vous avez apprise à l'école, puis après à la fac, peut-être, mais c'est obsolète, c'est faux, c'est de l'imaginaire. Vous avez les faits, et du coup, l'Uchronie peut jouer sur les faits de façon un peu subversive, un peu, on sait que c'est l'Uchronie, c'est pas grave, c'est publié chez ActuSF, donc ça mettra pas en danger l'université française, voilà, mais... C'est pas moins légitime, et là les historiens l'ont enfin compris, hein. D'Almeida, Rollet et d'autres, hein, ils ont enfin compris, historiens qui avaient déjà compris bien avant, hein. Même Winston Churchill, hein, écrivait des uchronies, hein. donc il était intéressé par ça. Et du coup, ça s'intéresse alors sur des grandes périodes, par exemple aujourd'hui on est énormément intéressé sur la part de la religion dans la culture, forcément. On se demande, christianisme, islam, judaïsme, les religions du livre, etc. Et il y a des périodes qui sont fascinantes sur ça, qui permettent de relativiser ce qu'on vous a appris à l'école. l'idée que la France a des racines chrétiennes, comme si effectivement, d'abord, c'est pas besoin de le dire, on sait que la France a été sous la domination d'un pouvoir monarchique, de droit divin, influencé par l'Église catholique très fortement, donc c'est une évidence, c'est comme je disais que l'être humain a un cœur, enfin voilà, c'est d'une banalité, mais on peut relativiser en regardant la naissance de cette soi-disant christianisation, et là on a des trucs fabuleux. Par exemple, si vous regardez le Haut Moyen-Âge, donc la chute de l'Empire romain d'Occident, 5e siècle, vous regardez l'état de ce qu'on appelait la Gaule romaine, la province romaine, enfin la Gaule romaine, eh bien il y avait 3 religions différentes, 4 religions, 5 religions différentes. Il y avait le paganisme des barbares, ceux qu'on appelait les barbares, qui étaient les peuples germaniques en migration vers l'ouest, poussés par les Huns d'Attila. Il y avait les gallo-romains qui étaient chrétiens, depuis la conquête de la Gaule bon, par César, mais depuis surtout la généralisation du christianisme dans l'Empire. Et puis il y avait ceux qui étaient ariens, rien à voir avec Hitler, les tenants de l'arianisme. L'arianisme, c'était une variante du christianisme créée par un prêtre d'Alexandrie qui s'appelait Arius, d'où le nom de arianisme, qui en gros simplifiait les évangiles pour que ce soit plus facilement compréhensible, et qui avait énormément marché, à tel point que l'Église catholique était confrontée plus aux arianistes hérétiques, qu'elle considérait comme hérétiques, qui étaient souvent les barbares, que le paganisme, c'est-à-dire le polythéisme, les dieux multiples, etc. Si vous regardez la France à cette époque, il y aurait de magnifiques uchronies à écrire, elle n'est pas du tout dominée par le christianisme. Et Clovis, soi-disant le baptême de Clovis, le premier roi franc, mais c'est un pur calcul politique. Clovis se baptise pour obtenir l'appui des gallo-romains contre les autres peuples barbares. Donc, vous voyez, l'histoire, il faut se méfier des grandes idées reçues qu'on confond avec des dogmes. La christianisation est très tardive. Vous prenez un autre historien comme Georges Duby qui vous dit au XIVe siècle, le christianisme n'était pas majoritaire en France. C'était la superstition, le paganisme. Et c'est pour ça que l'Église intervenait souvent pour dire ne soyez pas superstitieux, venez à la messe, etc. Donc c'est pas du tout gagné. Voyez. Et donc la place de la religion me semble être un chemin pour les uchronies extrêmement fructueux en ce moment. Et évidemment parce qu'il pose la question de la place de la religion aujourd'hui, au présent.
Mais j'ai l'impression que dans l'anticipation comme dans l'uchronie, il y a un peu deux manières de faire. Il y a la manière où, par exemple, on va dire « Ah, et si tel empereur avait été tué ?» Ou « Si tel messie était arrivé ?» Ou « Si tel... » Donc des uchronies ponctuelles, en fait, avec un point de divergence lié à des individus ou des événements forts, et puis des uchronies où ce sont des mouvements de fond, des économies mondes, des différentes, des choses comme ça, des choses plus structurelles. Et dans l'anticipation, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a aussi des anticipations, j'allais dire, ponctuelles, l'arrivée d'extraterrestres qui vont raser la Terre, ou des anticipations qui vont anticiper une nouvelle forme d'énergie ou de réseau ou de une modification de l'être humain, mais de tous les êtres humains en même temps, donc des changements sociétaux profonds directement, sans avoir à passer par quelque chose de ponctuel, un individu, ce qui est une manière de lire l'histoire. Il y a deux manières de lire l'histoire. C'est juste des dates et des empereurs et des guerres et des trucs. Et puis des comment on vit, en fait. Comment on vit l'histoire. J'ai l'impression que dans l'anticipation, c'est pareil. Il y a plusieurs types d'anticipation, en fait.
C'est exactement ça. Soit c'est l'histoire qui fait les grands hommes. Donc ce sont des courants de fond qui portent des personnages qui prennent une importance majeure et sur lesquels nous, après, on focalise en termes de lecture historique. Ou ce sont les grands hommes qui font l'histoire. Ce sont deux théories. En uchronie, on a les années sombres. Chronique du riz et du sel, je ne sais plus, de Kim Stanley Robinson, ouais. Voilà, qui postule que l'histoire n'a pas besoin de grands hommes et de grandes figures pour continuer, pour s'installer, et on va avoir sept siècles d'histoire européenne revisitée sans les points de repère qu'on a nous, mais malgré tout, il va y avoir ce flux historique qui va poursuivre. Il y aura quand même une première guerre mondiale, il y aura quand même une seconde guerre mondiale, malgré les changements, malgré les points de divergence, et on n'aura pas du tout les mêmes acteurs en place. Voilà. Ça, c'est l'histoire qui fait, qui est un courant de fond, ou alors on a effectivement cette lecture historique qui se dit, s'il n'y avait pas eu Napoléon, il n'y aurait pas eu tout ce qu'a fait Napoléon. Voilà. Sauf qu'il était peut-être là au bon moment, au bon endroit.
Hugo.
Très bien. Alors, je vais faire de l'histoire littéraire maintenant, et c'est peut-être un ressenti malheureux. J'ai tout de même l'impression que la production d'anticipation était bien supérieure à la production d'Uchronie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça s'explique? Et en même temps, j'ai l'impression que l'Uchronie s'est beaucoup développée ces dernières années. Est-ce que cela a une signification? De quoi l'Uchronie est-elle le nom aujourd'hui?
Bonne question. C'est pour ça que je l'ai posée qu'à la fin. Ça. Ouais. J'aurais fallu la poser au début qu'on ait le temps de réfléchir. Ouais, enfin, moi, surtout, j'ai le temps de réfléchir pour répondre après. Il y a un phénomène de mode sur l'Uchronie, ça c'est sûr. C'est un outil spéculatif. Je pense qu'il y a aussi le côté où le futur fait peut-être un peu peur. On est dans des futurs sombres la plupart du temps. Et l'Uchronie, on va chercher des passés peut-être plus rassurants ou peut-être plus. Ouais, on est peut-être plus sur du. On pourrait être mieux, ça pourrait faire mieux, ça pourrait être mieux, etc. Donc il y a cette petite nostalgie aussi qui joue. Je pense que c'est plus rassurant d'aller explorer le passé que d'aller explorer le futur, par exemple. Mais ça, c'est une hypothèse parmi d'autres.
Moi, j'ai une question, en fait. C'est pour l'Uchronie, parce que j'en ai fait très peu et je suis assez ignorant, en fait, de la chose. C'est, je me rappelle avoir lu qu'à une époque où beaucoup d'Uchronie se passait à la fin du 19e ou au tout début du 20e siècle, que c'était un peu l'apogée de la civilisation européenne, enfin civilisation, de la sphère d'influence européenne sur le monde, et qu'il y avait peut-être cette nostalgie de récits qui ont été faits à la fin des années 90 et dans les années 2000, de justement conjurer par la fiction une sorte de soi-disant déclin des civilisations européennes. Et est-ce que dans votre travail de recherche, est-ce que vous avez ressenti ça ou est-ce que ça a une validité?
Je ne l'ai pas ressenti aussi précisément. J'ai plus ressenti le sentiment effectivement d'aller se rassurer par rapport à ou un présent compliqué ou sombre ou un avenir encore plus sombre. En fait, depuis qu'on a une conscience, on va dire, écologique assez marquée, on se dit le futur qu'on se prépare est un futur apocalyptique ou peu s'en faut, et on cherche des moyens d'aller chercher, de se rassurer ou de trouver des choses, des Madeleines de Proust aussi à un moment donné là-dessus. Et ce retour dans le passé, on le retrouve aussi par le biais du steampunk, où on réinvente un passé, parce que ça n'a rien à voir avec le vrai passé, le steampunk victorien tel qu'on l'a, ça n'a strictement rien à voir avec la réalité historique. Mais ça, c'était aussi, on a de la technologie, on prend de la technologie, on retrouve ce qu'il y a de bon dans la technologie, ce qui peut être un facteur de progrès dans la technologie. C'est-à-dire que si on fait par exemple une uchronie ou du steampunk, où on va prendre une technologie, on va voir quel impact elle a sur la société, quel progrès, parce que c'est des sociétés qui progressent, on retrouve ce qu'on avait avant avec la science, c'est-à-dire la science va nous apporter le progrès. Maintenant, la science ne nous apporte plus le progrès. La science, avant, ça nous apportait des vaccins, ça nous apportait la médecine, la santé, etc. Maintenant, ça nous apporte l'homme augmenté. Et l'homme augmenté, c'est quoi? Eh bien, c'est la fin de l'humanité. Voilà, donc c'est plus ce côté-là où on trouve ce qu'il y a de bon dans le progrès technique, on trouve ce qu'il y a de bon dans la société, mais à rebours.
Pour compléter, absolument d'accord sur le fait que c'est un peu les Madeleines de Proust, effectivement. En même temps, il y a un petit élément qui est intéressant. L'Uchronie était très en vogue dans le premier tiers du XXe siècle, à tel point que la première anthologie d'Uchronie en Angleterre qui est parue, c'était 1931. Et ça s'appelait alors Lapses, alors pardon pour l'accent, mais Lapses into Imaginary History if it had happened otherwise, c'est-à-dire saut dans l'histoire imaginaire et si ça s'était passé autrement. Et ce que je note, c'est que c'était des grandes plumes, parfois des hommes politiques, Churchill, mais on trouve aussi André Mauroy, et alors c'était vraiment les années 30. Alors qu'est-ce que c'est que les années 30? Il y a même un bouquin qui est sorti en disant les années 30 sont de retour aujourd'hui, le parallèle entre les années 2020 et les années 30, c'est-à-dire avant le grand conflit mondial, alors c'est-à-dire de bien faire flipper tout le monde, la montée en puissance de l'Uchronie est aussi l'expression d'une angoisse sur la fermeture du futur proche. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus la peur d'une anticipation très sombre, donc on va de plus en plus se réfugier dans l'Uchronie et dans des univers, entre guillemets, pas forcément plus heureux, mais qu'on peut mieux contrôler, et où la science, effectivement, était, semble-t-il, en tout cas plus porteuse de bonheur que de contraintes.
Et d'espoir.
Et d'espoir, oui, tout à fait.
Ils ont beaucoup parlé, vous n'avez rien dit. Vous avez été sage. C'est l'heure des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser ?
Merci, bonjour. Monsieur Geffert, vous avez dit que vous aviez écrit principalement des anticipations, de l'anticipation.
Alors en fait, assez peu, j'ai écrit essentiellement du space opéra, c'est-à-dire justement des œuvres en rupture avec le réel contemporain. Donc j'ai écrit assez peu d'uchronie et assez peu d'anticipation, je me demande ce que je fais là en fait.
C'est ce que j'allais vous demander. Non,
comment anticipation exactement.
Il est là parce qu'on est dans une uchronie dans laquelle il n'a écrit que de l'anticipation.
Oui, voilà. Voilà.
En fait, j'allais dire que, bon, admettons que vous avez écrit que de l'anticipation, est-ce que finalement vous n'avez pas écrit que de l'uchronie, puisque de l'anticipation, c'est pas un état juste temporaire qui va devenir ou pas de l'uchronie ou de l'histoire.
J'allais dire qu'on s'en fiche un peu. On est dans la...
Merci.
Non, mais... Je m'en doutais de votre réaction. Non, mais c'est pour ça que je précise tout de suite, on est dans la fiction. Donc on peut tout se permettre. C'est ça l'idée et ce qui rapproche l'uchronie de l'anticipation, du post-apo, de tout, c'est que... on est dans de la fiction spéculative. À partir de là, j'allais dire, tout est dit. Que ça arrive ou pas, n'a pas d'intérêt à la rigueur. C'est quelque chose de on relira toujours des œuvres. C'est pour ça que je parlais de Dick tout à l'heure. Une œuvre, elle a autant de lecture que de lecteur. Donc, et plus on avance en âge, plus l'œuvre avance en âge, plus les lectures sont variées, et j'allais dire, c'est les lectures elles-mêmes qui sont uchroniques, qui vont relire justement l'histoire à l'intérieur de l'œuvre. Donc il y a pas de problème en fait. C'est un, je veux dire, l'uchronie, l'anticipation, oui, ça relève, c'est le même robinet spéculatif, clairement.
Hugo, c'est chaud ou froid au niveau de l'eau?
Ah bah voilà.
Tienne.
Tout. Faut éviter l'eau tiède, quoi. Faut éviter l'eau tiède, c'est tout.
Oui, je voudrais juste poser une question sur les uchronies dites littéraires. Par exemple, je donne un exemple. Jules Verne a écrit Tour du monde en 80 jours et Philippe-Joseph Farmer a réécrit Tour du monde en 80 jours en mettant des extraterrestres là-dedans, en opposant le capitaine Nemo, Phileas Fogg. Est-ce que ça se développe beaucoup ce genre d'uchronie? Est-ce que c'est une uchronie ou est-ce que c'est un jeu quelconque?
L'uchronie déjà est un jeu. Je veux dire, il y a une dimension ludique qui est inhérente au fait d'écrire une uchronie. Les seules uchronies qui ne soient pas des jeux, ce sont les uchronies militaires qui rejouent des batailles qui sont très 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 sérieuses. Mais à partir de là, tout auteur d'uchronie joue avec son lecteur et joue avec la complicité de son lecteur. Après, il y a différents niveaux. Ce que vous donnez comme exemple là, c'est assez courant et on va retrouver beaucoup ça dans le courant steampunk justement, où c'est vraiment un jeu de mettre des personnages ensemble, des personnages vivants et des personnages littéraires. On va avoir Sherlock Holmes, on va avoir Arthur Conan Doyle, on va avoir les mêmes qui vont se mélanger sur de grandes fresques là-dessus. Donc c'est pas un type d'uchronie, mais ça fait partie effectivement du grand corpus de l'uchronie.
Mais je pense qu'il y a une dimension d'hommage de la part des auteurs.
Oui, tout à fait.
Moi, je prépare une uchronie à l'heure actuelle qui est une sorte de crossover, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, une sorte d'univers partagé. Enfin, je collisionne deux univers littéraires, celui de Wells, des premiers hommes dans la Lune, et celui de Gustave Le Rouge, le prisonnier de la planète Mars et sa suite, La guerre des vampires. Et c'est une manière aussi de rendre hommage à un auteur et à la vision qu'il transporte. Voilà, c'est le choc de deux visions d'auteur sur leur propre époque en fait. Et aussi une manière d'envisager la spéculation à l'époque. C'est encore plus pervers, j'allais dire.
Stephen Baxter avait fait une uchronie comme ça qui était très vernienne, qui était un pur hommage, donc c'était un de ses premiers romans, et c'était un pur hommage effectivement à Jules Verne, à l'ambiance et à l'époque. Et c'est effectivement, je prends l'univers, je prends les points de repère, et moi, auteur de contemporain, je réécris comme on pouvait écrire, Jules Verne, quoi.
Le maître un peu dans le truc, c'était Philippe-Joseph Farmer qui a vraiment, pour moi, ouvert la voie.
Ouais. J'ai une question en lien avec les problématiques actuelles. Je pense aux réseaux sociaux qui ont tendance maintenant à enfermer les personnes dans des bulles de raisonnement et à pas les ouvrir à d'autres aspects contradictoires. Ou je pense à un président américain qui spécialise des fake news. Est-ce qu'on pourrait dire en provoquant que certaines personnes vivent dans l'Uchronie aujourd'hui, ou est-ce que voilà, je serais intéressé d'avoir votre avis d'auteur sur la tendance actuelle.
Est-ce que Donald Trump a vraiment été élu, en fait?
Oui. Alors, Donald Trump n'a pas été élu. Ça, c'est vous qui vivez dans une uchronie. Hein. Comment les Américains auraient pu élire Donald Trump? Enfin, non. Je ne sais pas. En fait, ça, c'est votre question. En fait, c'est le fondement du travail de l'auteur. C'est-à-dire qu'on essaye de... On n'essaye pas de... Enfin, on ne se pose pas cette question. Parce que si on se la pose, on est mort. Parce que tout de suite, on va angoisser sur le fait de... Est-ce qu'on va pouvoir raconter quelque chose de cohérent? On essaye de sentir le voilà ce que vous dites. Chacun vit-il dans un univers ou dans un temps, dans un univers-temps à part entière où il a sa vision. On fait des uchronies personnelles tous les jours. Hein, si seulement je m'étais levé plus tôt, etc. Et ça devient de plus en plus à la mode cette espèce de jeu sur l'uchronie. Et nous, les auteurs, enfin, on peut essayer de rendre ça dans des récits. Mais si on part de ça, on est foutu parce qu'on n'arrive pas à écrire quelque chose. Il faut d'abord raconter des histoires et puis ça va venir, ça va imprégner petit à petit. Voilà.
Mais il y a peut-être de ça en fait. Enfin, je trouve la question, enfin, elle est très bienvenue parce que finalement, jusqu'aux années, enfin, l'uchronie c'est aussi une manière de dire, il n'y a pas de, c'est une manière de contrecarrer une réalité consensuelle, une histoire consensuelle. C'est-à-dire ce que au moins, par exemple, les dates de tel événement, au moins c'est quelque chose sur lequel on est d'accord. Et donc de remettre en cause ça, de remettre en cause des dates précises de trucs, c'est une manière de remettre en cause justement l'histoire dans son ensemble, et donc la perception de la réalité dans son ensemble. Et ce que vous dites justement de... est-ce que l'uchronie, c'est pas le genre d'aujourd'hui, dans le sens où on est tous dans nos perceptions de la réalité qui n'a plus à rendre compte d'une réalité consensuelle supérieure qui est celle de la nation, de l'État, d'une histoire communément admise. S'il n'y a plus d'histoire communément admise, est-ce que c'est quoi la validité de l'uchronie, d'une certaine manière,
ou de l'histoire même?
Donc
en fait.
Non, au contraire, vous êtes peut-être au cœur de la thématique en fait.
Mais sauf que, à mon sens, les réseaux sociaux, enfin là c'est un avis personnel, mais ne créent pas une individualisation extrême de rapport au temps, à l'histoire. Mais ça recrée des communautés, en fait. Hein. Parce que vous regardez bien, dans les réseaux sociaux, on va se regrouper par avis convergent, et malheur à celui qui va avoir un avis divergent, qui va être automatiquement exclu de la communauté. Donc du coup, je ne sais pas si c'est l'individu qui l'emporte, ou si c'est pas plutôt des communautés, et du coup des histoires ou des uchronies communautaires, où nous sommes ensemble parce que nous pensons que voilà quel est l'élément ou la vision qu'on a, nous, de l'histoire, du monde, etc. Plutôt.
Une dernière question.
Alors ma question sera beaucoup moins profonde. C'était tout simplement une question. On ne peut pas dire que l'uchronie soit le genre malheureusement le plus connu, mais est-ce que l'uchronie n'a pas réussi à gagner le public par l'intermédiaire en fait des histoires comme Alix ou Astérix, tout simplement? Est-ce que l'uchronie n'a pas réussi à avoir son public plutôt de manière détournée, pas par l'uchronie pure, mais plutôt par les récits comment expliquer? Voilà, je pense que l'exemple d'Astérix est peut-être suffisamment parlant.
Ouais, faut qu'on en parle d'Astérix et Obélix quand même. Bah ouais.
Non, mais ce que vous dites est juste, effectivement. L'uchronie, le mot n'est pas forcément connu. Hein, mais par contre, on en trouve partout, on en trouve même en littérature générale. On trouve des boucles temporelles dans des films donc qui génèrent des uchronies personnelles sur une courte durée. C'est sûr que le public est là, en fait. Il est déjà familier avec le procédé. Il est familier aussi avec le procédé spéculatif. Et quand on est lecteur de science-fiction, encore plus, parce qu'on en lit sans même savoir qu'on en a lu. Mais le mot, effectivement, n'est pas connu. Je pense que c'est juste le mot et la définition qui méritent d'être portés, plutôt que le procédé en lui-même, qui, effectivement, a déjà, oui, son lectorat.
On va s'arrêter là. Il est 11h. Merci à tous. Merci à nos auteurs.
Merci.